franceinter.fr.
Bonjour Jean-Pierre Filu.
Bonjour.
Vous êtes historien, arabisant, professeur à Sciences Po. Dernier ouvrage paru l'an dernier, Les Arabes, leur destin et le nôtre, aux éditions La Découverte. Vous venez de signer une tribune retentissante dans le monde sur les mensonges de Barack Obama au sujet de la menace djihadiste. Et on va revenir avec vous sur ce que vous appelez les défaillances américaines au Proche-Orient. D'abord la situation en Syrie que vient d'évoquer Bernard Guetta, cette situation, cette bataille d'Alep, la grande ville du nord du pays où les combats ont tué plus de 300 civils depuis 3 semaines, au moins une cinquantaine d'enfants, dont on l'a appris hier, le frère du petit Omran, ce gamin de 4 ans dont le visage ensanglanté et couvert de poussière a fait le tour du monde ces derniers jours. Encore une image d'enfant pour nous rappeler la catastrophe humanitaire en cours. Et rien ne change. Constat d'impuissance de François Hollande hier. Alep fera honte au monde si nous ne faisons rien. Ça s'adresse à qui, Jean-Pierre Filu? Qui peut stopper l'hécatombe en Syrie?
Ça s'adresse d'abord à tous les êtres humains de cette planète. Si je puis me permettre cette emphase, vous m'avez fait l'honneur de me recevoir il y a 3 ans pratiquement, jour pour jour, alors que je rentrais moi-même d'un séjour de terrain à Alep, où déjà ce que j'avais vu était cataclysmique. Et depuis, ce n'est pas vrai que rien ne change. Le degré de violence a très sensiblement connu une escalade, notamment du fait de l'intervention directe des Russes, qui utilisent sur Alep, entre autres, toute une série d'armements prohibés, au moins par leurs engagements internationaux. On pense aux bombes incendiaires, aux munitions sous fragmentation, etc., etc. On est donc dans une horreur qui interpelle chacun d'entre nous, et ce qui se passe à Alep ne peut pas indéfiniment rester contenu là-bas. On l'a déjà vu en Europe, dans le sang de Charlie, de l'Hypercacher, du Bataclan, de Nice et d'ailleurs. Et on voit que cette Syrie, dont l'impasse vient d'être décrite avec beaucoup de talent par Bernard Guetta, eh bien, elle nous concerne. Et cette impasse, elle n'est absolument pas le fait des Syriens. Je crois profondément, je l'ai écrit, y compris dans la presse libanaise ces derniers jours, qu'une paix des braves est possible à Alep et qu'un accord entre Syriens, entre patriotes des deux camps, que ce soit l'Ouest, donc loyaliste, ou l'Est révolutionnaire, est possible. Encore faut-il pour cela, et la condition n'est pas mince, que soit neutralisé du côté Assad, russe, iranien et différentes milices affidées, Hezbollah, irakiens, afghans et autres, et du côté révolutionnaire, les djihadistes, parce que cette escalade a donné à la branche locale d'Al-Qaïda la possibilité de pénétrer dans Alep, d'y prendre pied, alors qu'elle n'y était pas.
Oui, alors c'est une question clé, parce que l'engagement russe est justifié par Moscou, et d'ailleurs aussi par ses partisans français, par la présence massive de djihadistes, de combattants liés à Daesh ou à Al-Qaïda chez les opposants à Bachar el-Assad. Est-il vrai qu'on ne peut plus distinguer, qu'il n'y a pratiquement plus de troisième voie en Syrie entre Bachar et les islamistes radicaux, Jean-Pierre Filu?
Au contraire, cela fait 5 ans que je prêche pour un soutien à cette troisième voie qu'au fond tout le monde veut enterrer parce qu'elle embête tout le monde.
Mais on dit qu'elle s'affaiblit, cette troisième voie, parce que
on dit qu'elle s'affaiblit depuis 5 ans. Et elle est toujours là. Alors effectivement, tout le monde est contre elle. Disons la vérité, tout le monde est contre elle. Évidemment, les Russes sont contre elle, parce qu'ils veulent écraser une alternative crédible à Assad. Ils préfèrent avoir des djihadistes comme repoussoir. Mais les Américains aussi sont contre elle. Les Américains ne font confiance qu'à des guérillas de type léniniste, avec une hiérarchie claire. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se rallient au PKK, donc aux séparatistes kurdes, parce qu'ils ont l'impression que là, il y a un chef des commandements, alors que moi, je l'ai vu sur le terrain, et tous ceux qui sont allés en Syrie, ont pris le risque de le faire, peuvent en témoigner. La guérilla syrienne est éclatée, elle est fragmentée. Mmh. Alors effectivement, ça fait désordre, ça fait confus, mais du coup, ça fait enracinement. Et c'est ça qui fait que cette guérilla, eh bien, elle est plurielle et que jusqu'à présent, elle a réussi d'abord à expulser Daesh hors d'Alep et jusqu'à ce siège qui est un siège d'extermination, il faut appeler les choses par leur nom, d'Alep, elle s'est finalement ralliée, en tout cas, elle a laissé rentrer Nosra, donc la branche d'Al-Qaïda. Mais là encore, si on lui redonnait un espace, on pourrait voir cette tendance se renverser. Mmh. Et j'ai un petit horizon d'espoir. Le monde entier avait les yeux fixés sur une ville du nord de la Syrie, Menbij, l'antique Héraclius, un bourg aujourd'hui un peu poussiéreux, parce qu'il était la cible d'une offensive anti-Daesh menée de la part des Kurdes alliés des États-Unis. On nous en a beaucoup parlé, la ville est finalement tombée, heureusement pour ses habitants, quoique ils sont peut-être tombés d'un joug dans un autre avec des Kurdes qui sont fort peu tolérants. Mais au même moment, on a une bataille qui nous concerne directement parce que c'est la bataille pour le corridor d'accès et de sortie des djihadistes de Syrie. Cette bataille, personne n'en parle. Or, ce sont des révolutionnaires arabes et sunnites, cette fameuse troisième voie qui l'amène, avec le soutien de la Turquie, ce qui prouve que là, on peut progresser encore. Faut-il être clair sur les alliances et les priorités ?
Vous l'avez écrit dans L'Orient le Jour récemment, hein, là, vous faisiez allusion à la presse libanaise. Écriviez-vous, une des plus anciennes cités de l'humanité, Alep en l'occurrence, pilonnée, saccagée depuis 4 ans, est un scandale absolu. Je reviens à ma première question. Qui peut stopper aujourd'hui l'hécatombe ? Il peut y avoir, alors vous disiez les Syriens eux-mêmes, mais sans impulsion des grandes puissances, comment est-ce possible ?
Moi, j'ai une suggestion très simple. Il se trouve que j'ai eu l'honneur pendant 20 ans de servir mon pays comme diplomate. Donc j'ai une vague idée de ce qu'est concrètement, techniquement, la diplomatie. Que l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Syrie, Stéphane de Mistura, aille à Alep, qu'il y aille, qu'il fasse sur place la paix avec ceux qui se battent. Il est absolument indécent qu'on continue d'amuser la galerie de manière sinistre sur les bords du lac Léman, quand les seules personnes qui peuvent conclure un cessez-le-feu sont les combattants sur le terrain. Je ne crois pas que Russes et Américains puissent, à supposer qu'ils arrivent demain à un accord, calmer les choses sur le terrain. La Syrie a une dynamique propre, cette dynamique est fondamentalement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'elle est interne, qu'elle échappe au contrôle des parrains étrangers, quel que soit le degré d'implication de ceux-ci, on le voit bien. Depuis que la Russie est directement engagée en Syrie, c'est-à-dire depuis septembre 2015, elle semble avoir encore moins de capacité de pression sur les acteurs locaux. Donc, il faut revenir à la base, c'est-à-dire à la réalité sur le terrain. Et c'est vrai que c'est très difficile, mais la diplomatie n'a jamais été un travail simple. Mais il faut simplement admettre l'échec de toutes les formes de négociations qui ont été menées jusqu'à présent sur les bords du lac Léman, pour deux raisons. D'abord parce qu'elles décrédibilisent les représentants de l'opposition face à la résistance intérieure du fait du blocage d'Assad. Et ensuite parce qu'Assad n'a jamais envoyé que des diplomates. C'est-à-dire qu'il considère qu'il ne traite pas avec des compatriotes, mais avec des forces étrangères.
Quelques mots avant d'entendre la rue de presse et Agnès Soubiran sur cette tribune. J'y faisais allusion que vous avez fait paraître ce week-end dans Le Monde. Pourquoi cette charge contre les États-Unis ? Ce que vous reprochez aux Américains, pour l'essentiel, c'est de se tromper de pays, hein, c'est de mettre le paquet sur l'Irak, alors que, écrivez-vous, il faudrait se concentrer sur la Syrie, sur un plan militaire. Hein.
D'abord, je leur reproche de mentir. Et vous savez que la question du mensonge...
On comparera Obama à George Bush.
Je pense qu'il est bien pire. Parce que George Bush, lui, était conscient qu'il mentait. Avec Obama, je ne sais plus s'il démêle le vrai du faux. Ouais. Cette personne est tellement arrogante, tellement narcissique, et disons la vérité, elle a un tel mépris pour ses arriérés d'Européens et ses Néandertaliens d'Orientaux, qu'elle est prête à toutes les confusions, tous les amalgames pour dire circuler, il n'y a rien à voir.
Il vient de faire un acte d'humilité, Obama, en disant que ses cheveux blancs étaient dus à la Syrie. Vous avez vu cette déclaration une forme d'impuissance admise et reconnue par le président américain concernant le Moyen-Orient.
Je pense que les 300 000 morts syriens lui en seront posthumement reconnaissants. Et je rappelle là encore qu'il y a 3 ans jour pour jour, Barack Obama, en décidant de ne pas bombarder Assad, malgré le gazage chimique d'une partie de sa population dans la capitale, nous a amené très directement dans la situation où nous sommes. Et cette décision, non seulement Obama ne la regrette pas, mais la revendique comme l'acte le plus important de sa diplomatie à la Maison-Blanche.
Jean-Pierre Filiu, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions des auditeurs. On apprend à l'instant que l'artillerie turque ouvre le feu, bombarde en ce moment des positions du groupe État islamique en Syrie en réponse à des tirs de mortier sur son sol. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis les questions des auditeurs, évidemment, à venir. Il est 8h31.